19h-20h. Les informés avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes jeudi et jeudi ensemble durant une heure. Une heure les informés, vous le savez, c'est analyser, commenter et décrypter l'actualité. Quel plaisir de vous retrouver. Nous sommes en direct sur Beurre FM. Trois sujets qui ont retenu notre attention. On reviendra sur les présidentielles 2022 dans quelques mois. Mais surtout, nous allons nous intéresser, surtout, aux 470 000 inscrits, ça y est, qui ont commencé à voter à la primaire populaire. Sept personnalités en lice de gauche. Mais qui va l'emporter? On en parle. Qui est pressenti pour l'emporter en tous les cas? Sondage, Marine Le Pen qui creuse l'écart avec Valérie Pécresse, mais surtout Marine Le Pen qui se retrouve face à face dans la course justement du second tour face à Emmanuel Macron. Et elle est en tête chez les 18-30 ans. Les deux d'ailleurs, Macron et Marine Le Pen. Autre sujet qui a retenu notre attention, 9 Français sur 10 estiment que la justice doit être plus sévère face aux délinquants. Alors moi j'ai envie de poser la question, est-ce qu'elle est plus laxiste? Ça c'est clair. Aujourd'hui, la justice, notre justice. Grand point d'interrogation. Vous, au 01 53 48 3000, on vous attend. Le standard est ouvert pour vous à tout moment. Partout en France, vous venez, vous nous interpellez. 19h30, c'est le billet d'humeur de Michel Taube. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Le face-à-face.
Les informés, le face-à-face.
Le face-à-face avec Emmanuel Dupuy, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Je suis ravi. Je suis ravi aussi de retrouver mon sparring partner.
Ouais, vous
les
avez
amis,
vu ça?
Les amis de la. Les amis.
On est ravi aussi de retrouver la belle lumière.
Ah, c'est lumineux, c'est éclairant.
Ouais, c'est ça.
Voilà. La radio. On va vous édifier. Par la lumière aussi.
Ouais, on va vous édifier, c'est ça. La radio retrouve vie.
Oui, c'est vrai. Et âme, c'est bien. Non, c'est très bien. Ça manquait un peu de luminosité, Beurre FM.
Bon,
hein, ça y est.
Respect, Gemma.
Merci, surtout.
Abdeslam Itach, comment ça? Alors, vous êtes le président de l'IPSE. Abdeslam Itach, le vice-président du Modem, donc, sur le département du 95. C'est pourquoi ça. Vous me regardez comme si...
Non, mais j'attendais
le Modem
la
fait
chute.
Toujours rire.
Non,
connais,
j'attendais
non.
la chute.
Non,
Emmanuel, j'accepte le statut de sparring partner, sauf que je suis le tenant du titre et tu es le challenger.
Oh bah ça me pose aucun problème.
Pas de souci.
Oui, c'est bon, ça va.
Très bien.
C'est vrai.
On aime bien
ce parle. Que Rélé entre centristes.
Ouais. C'est ça.
Ah. Voilà. Pas de ding dong, non.
C'est ça. Abdeslam, tout va bien.
Parfaitement bien.
Messieurs, vous êtes prêts à débattre, à commenter. 01 53 48 3000, nous vous attendons aussi. Alors, un scrutin pour unir la gauche. Pardonnez-moi, j'ai craqué. Oui, parce que j'ai dit pour unir la gauche. Bah oui, parce qu'elle a du mal à prendre forme. Le vote de la primaire populaire, une consultation citoyenne. Vous savez quoi qui s'élève à 470 000 personnes qui se sont inscrites. Alors, messieurs, la question que je pose, est-ce que le vote... d'abord... évidemment, va être utile à mettre en avant une personnalité qui risque de sortir du lot. Et ce vote, surtout, est-ce que, j'ai deux questions, est-ce qu'il risque vraiment de former cette gauche qu'on attend? Emmanuel Dupuy.
Non et non, pour des raisons que...
Vous avez le droit à une double cachette.
Voilà, premièrement, parce que sur les 7 candidats, il n'y en a quasiment aucun qui n'accepte... ils acceptent les règles du jeu, ils sont absolument ravis qu'il y ait 470 000 personnes qui se soient inscrites. Mais aucun ne va sans doute tenir compte des résultats. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon va tenir compte du résultat? Est-ce que Yannick Jadot va tenir compte du résultat? Est-ce que Catherine Taubira va tenir compte du résultat? La seule...
Christiane Taubira
va tenir compte du résultat, c'est Anne Hidalgo. La bonne surprise serait qu'Anne Hidalgo soit, entre guillemets, rassurée sur son taux de popularité au sein de sa famille politique. C'est peut-être le seul avantage de cette primaire populaire. Je rappelle les règles de la primaire populaire. On ne demande pas l'avis de ceux dont on propose le nom, puisque c'est évidemment chaque votant qui pourra déterminer si oui ou non il se reconnaît dans un candidat. Donc c'est plus, en fait, assez égocentrique pour jauger le taux de popularité de ces leaders de la gauche. Deuxième, non, il n'en sortira rien, puisque ce n'est pas une primaire qui est endossée par les partis politiques dont ils représentent une certaine forme de légitimité.
On va voir comme les idées quand même. Hein. On aura une idée.
Certes, mais celui qui sortira gagnant ne sera absolument pas légitime pour ensuite aller au niveau du Parti Socialiste, des Insoumis, des Verts, pour dire, voyez, les citoyens...
Il y en a un qui l'emporte. Vous savez c'est qui? C'est les 470 000.
Bah non, parce que leur vote servira...
C'est énorme.
Non, parce que leur vote servira à rien.
Bah si, c'est énorme, 470 000.
Oui, mais ça, leur vote servira à quoi?
Bon, bah écoutons, on verra bien de toute façon. On va voir.
Alors attendez, si votre idée, c'est que celui qui sort en tête deviendra le chef putatif, naturel, spontané de la gauche, c'est une vue de l'esprit, puisqu'ils ont déjà dit qu'ils ne tiendraient pas compte du résultat.
Bah alors à quoi ça sert de faire ce...
Mais c'est bien la question que je me pose.
Abdeslam Itach, c'est vrai?
Non, mais je crois que le projet est mort dans l'œuf, et que de toute façon, le trois des candidats...
Ils l'ont tué les deux.
Ont déjà annoncé qu'ils ne tiendraient pas compte du résultat, et qu'ils iraient quoi qu'il arrive. Donc on partirait déjà sur beaucoup plus... Enfin,
les jeux sont
faits. La même division à gauche. Mais alors, moi, vous m'annoncez 470 000, moi je vous annonce 467 000. Donc vous voyez, les chiffres, il aurait fallu les chiffres officiels. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que on a, et je l'ai déjà dit ici, on a la gauche la plus bête d'Europe.
Arrêtez.
Non mais c'est une réalité.
Clochette, non mais arrêtez.
C'est une réalité. On a Christiane Taubira.
Vous êtes dur, Abdeslam Itach.
La gauche la plus bête d'Europe qui pèse tout réuni, moins de 10%. Donc,
ah oui. Donc en plus beaucoup. De ça, ouais. Ils sont
Allez, est-ce que vous pensez que la gauche, c'est la gauche la plus bête d'Europe? Est-ce que vous pensez comme Abdeslam Itach, 01 53 48 3000?
Non mais je suis curieux. Au plumet au goudron.
Je suis curieux de savoir ce que pensent les auditeurs partout en France, justement. Bon. Est-ce qu'ils pensent que, comme vous, que la gauche est la plus bête d'Europe?
Alors, je vais expliquer, je vais développer les raisons pour lesquelles je pense qu'elle est la plus bête d'Europe.
Vous allez vous faire des ennemis.
Christiane Taubira, qui prenait le rassemblement, finalement prône la division, puisque ça fera une candidature de plus dans l'hypothèse où cette primaire, qui ne porte pas son nom, se faisait. Voilà, il y a encore de... ça part dans tous les sens, à gauche, on n'y comprend plus rien. Et je crois que les électeurs en ont assez de tout ça. Et il est important qu'il y ait un vrai renouvellement à gauche, que tous ces dinosaures là du Parti Socialiste et autres arrêtent, prennent leur retraite, et qu'on puisse voir de nouveaux profils avec des gens qui ont de nouvelles idées.
Ah, vous en voulez à la gauche, vous, hein?
Non, mais il faut qu'elle se renouvelle. Moi, vous savez, j'ai été jadis, il y a très 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 longtemps, à l'époque de Mathusalem père, hein, c'est vous dire, j'ai été un homme de gauche, mais quand je vois cette famille se déchirer, ça me fait de la peine. Et il y a eu des avancées sociales dues à la gauche, et ça, on peut pas le nier. Ensuite, il faut absolument que les gens puissent se reconnaître dans un clivage gauche ou droite, comprendre ce qu'est les valeurs de gauche et ce qu'est les valeurs de droite. Donc vous voyez, moi ce qui me gêne vraiment beaucoup, c'est que déjà d'entrée, vous avez Anne Hidalgo qui ne jouera pas le jeu, Jean-Luc Mélenchon qui ne jouera pas le jeu, et le troisième Yannick Jadot qui ne jouera pas le jeu. Vous voyez bien que il n'y aura pas d'union à gauche, et que la gauche est condamnée à échouer lors de cette présidentielle.
Eh bien, c'est dur ces propos quand même, hein. Je vous attends, les auditeurs. 01 53 48 3000, jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je voudrais vous entendre partout en France nous livrer ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez, comme Abdeslam Itach, que c'est la gauche la plus nulle d'Europe? En France, c'est la plus bête, pardonnez-moi, c'est pire encore, la plus bête. Donc je vous attends au 01 53 48 3000. Je voudrais vraiment avoir votre avis. Emmanuel Dupuis, finalement, vous nous dites clairement que vous, cette primaire populaire, bon, elle va se faire durant tout le week-end. On verra bien, évidemment, quelle est la personnalité qui sera la mieux appréciée pour une majorité, voilà, avec l'élection. Mais vous dites qu'elle ne sert à rien. Mais alors, pourquoi organiser une primaire? Vous, président de l'EPSE...
Ce n'est pas une primaire.
Une élection autour, évidemment, de ce vote populaire.
Ce n'est pas une primaire. C'est une façon pour Anne Hidalgo de donner l'impression que le Parti Socialiste a encore le lead sur une famille politique de gauche qui est éclatée entre ceux qui veulent, qui voudraient, qui pourraient participer à un gouvernement d'union de la gauche, comme François Mitterrand avait
elle
réussi
a demandé
à le faire.
Que son nom soit retiré.
Oui, oui, elle est pas la seule. Et Fabien Roussel n'est pas associé au truc, donc oui. Forcément, c'est
donc peut-être il n'est pas de gauche, Fabien Roussel.
Oui, il est pas de gauche, mais enfin bon, historiquement quand même, le Parti communiste est un petit peu plus à gauche que tous ceux qui se présentent à la posture. Donc ça me paraît quand même un peu spécieux de dire que tout ce qui n'a pas fonctionné avant, l'unité de pensée ou les convergences idéologiques sur un certain nombre de marqueurs. Bon, le caractère progressiste des combats que l'on mène. La défense acharnée du service public. Il suffit de voir la manière dont Anne Hidalgo a été vertement critiquée, pour ne pas dire houspillée, lors de son soutien ou de sa présence lors de la manifestation des enseignants il y a 2 semaines. ça prouve qu'il y a de vraies ruptures et qu'il y a sans doute un changement idéologique qui est en train de se faire dans notre pays, qui majoritairement reste à droite et au centre.
Donc un renouvellement du paysage politique à gauche.
Un renouvellement du paysage politique.
Mais est-ce qu'on peut lui reconnaître quand même une belle initiative citoyenne ?
Mais de toute façon, à partir du moment où les gens...
Vous les reconnaissez ça quand même ?
Oui, mais pour quel objectif ?
Une belle initiative citoyenne.
Ouais, enfin,
attention,
si elle n'aboutit à rien,
ce n'est que 470 000 personnes.
Mais c'est énorme encore une fois. C'est énorme.
C'est énorme.
C'est énorme.
Alors, je vous pose la question autrement. Est-ce qu'on est sûr que les 470 000 qui s'expriment dans cette primaire populaire iront bien voter ? Je ne suis pas certain. Ouais.
Moi, je pense que
en
oui.
En plus, j'ajouterai une chose. C'est que moi, je peux très bien inscrire toute ma famille... Et utiliser les sept voies de ma famille. Donc, vous voyez, il n'y a pas de réel contrôle. Par ailleurs, vous savez, sur le type d'élection, les gens vont pouvoir juger si le candidat est excellent, très bien, et en fonction du nombre de croix, aura un certain nombre de points. Vous voyez, c'est un petit peu gazeux comme méthode.
En tout cas, on fera une émission spéciale dès lundi, puisque, évidemment, cela se déroule jusqu'à ce week-end, jusqu'à dimanche, et je recevrai, évidemment, les acteurs qui ont participé à cette présidentielle, cette primaire populaire, je cherchais le terme. Allez, direction le standard 01 53 48 3000. C'est parti.
53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
Je vais aller direction Pantin, où je vais accueillir Karim. Bonsoir Karim.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités.
Bonsoir, merci d'être avec nous mon cher Karim. Alors mon cher Karim, qu'est-ce que vous pensez de tout cela évidemment, dites-nous, votre avis vous m'intéresse.
Moi je vous téléphone en tant qu'orphelin de la gauche.
Orphelin de la gauche, c'est pas mal ça.
Ah oui, parce que j'avais une famille qui s'appelait la gauche. Enfin j'y ai cru pendant des années. Hein.
Elle vous a abandonné.
J'ai un certain âge, hein, j'ai 62 ans. J'ai été militant communiste, socialiste, j'ai été vert pendant jusqu'à mes 50 ans, jusqu'à que tombent mes illusions. Mais moi, ce que je voudrais dire.
Il est important.
Pardon ?
Il est très important votre témoignage. Vous vous rendez compte ce que vous êtes en train de me dire ? J'ai 60 ans, vous êtes jeune. Depuis ma tendre jeunesse, j'ai participé aux différents mouvements de gauche. Et en date, le dernier en date, les Verts. Et vous dites aujourd'hui, je me retrouve orphelin. C'est des mots forts qu'il emploie, Karim. Hein ?
Je vais vous dire, moi, j'ai milité à l'UNEF et à la jeunesse communiste quand j'étais à l'université. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que. Moi, je me considère comme un cocu de la gauche parce qu'à chaque fois, j'ai toujours voté à gauche et j'ai toujours été déçu. Ils n'ont jamais, moi je me rappelle de Mitterrand qui devait donner le droit de vote à mes parents, par exemple, des choses comme ça, mais ça n'a jamais, jamais abouti.
Bon,
attention, ça ne veut pas dire que je voterai à droite, je ne voterai jamais à droite parce que quand j'écoute les discours de la droite aujourd'hui, eh ben, tous, sans exception, de Valérie Pécresse à Zemmour, je suis un Français de seconde zone. Hein. Mmh. Je ne suis pas un Français à part entière. Moi, ce qui me désole dans la gauche, c'est qu'en fin de compte, il y a trop, comment dirais-je, ils sont trop divisés parce qu'en fin de compte, ils n'ont pas... Ils ont repoussé ou nié les luttes, ce qu'on appelle la lutte des classes. C'est quelque chose de tellement évident qui se voit comme le nez au milieu de la figure et ils ont renié ce qui faisait le combat de la gauche qui était le social. Ils l'ont renié parce qu'ils ne l'ont jamais appliqué. Moi, j'ai grandi dans des villes communistes. J'ai grandi à Bobigny, à La Courneuve et à Drancy. Regardez ce que sont devenues les villes communistes.
Oui.
Voilà le résultat.
Mon cher Karim, qu'est-ce que vous pensez de cette primaire populaire qui est en train de s'organiser en ce moment-même et jusqu'à dimanche avec les 470 000 inscrits ? Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne idée ?
Moi, je vais vous dire.
Ou ça ne
tout
sert
ça,
à rien.
C'est du cinéma. Je vais vous dire pour que ça, il aurait fallu le faire avant.
Comme Emmanuel Dupuy, des cinémas.
Mais je vais vous dire, il aurait fallu le faire avant. Pas maintenant. Maintenant, c'est trop tard et de toute façon, tous, autant qu'ils sont. Hein, ils savent qu'ils ont perdu les élections. Ils sont en train de préparer les législatives, en vérité. Et c'est comme Mme Taubira, elle est bien gentille, de venir comme ça, de sortir de derrière le bois. Mais en fin de compte, elle est là dans quel but ? Elle est là parce qu'elle cherche du travail, tout simplement.
En tout cas, il y a Emmanuel Dupuy qui souhaiterait vous interpeller.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Karim. J'admire justement ce courage de dire qu'il est orphelin, mais il n'est pas forcément orphelin de la gauche, il est orphelin de ceux qui aujourd'hui représentent la gauche. Parce qu'il reste encore une idéologie de gauche, social-démocrate pour certains, ou socialiste, ou communiste, ou plus progressiste. C'est une réalité partout en Europe. Le problème qu'on a en France, c'est que ceux qui l'incarnent n'impriment pas. On peut pas dire qu'Anne Hidalgo est représentative du Parti Socialiste Français. Ou alors je me suis un petit peu trompé d'époque. Moi-même, j'ai fait partie du Parti Radical de Gauche. Je peux pas dire non plus que le Parti Radical de Gauche est encore un parti qui produit intelligemment des idées qui changent la société. La vraie question, ou le vrai dilemme, c'est que le socialisme s'est un petit peu enquisté dans le pouvoir et n'est plus un bourgeoisé. Oui, tu as raison, Abdelsam. Il s'est un peu embourgeoisé et il n'est plus, réformiste ou pire révolutionnaire. Et donc, à partir du moment où vous avez des partis de gauche qui sont devenus conservateurs,
oui,
sur bien des sujets, au niveau de la famille, au niveau de la gestion municipale, au niveau des idées qui changent la société, et là, effectivement, on peut se poser la question non pas de la disparition ou de la nécessité d'avoir une famille de gauche dans tous les partis et dans tous les pays européens, et notamment dans tout le monde, pour changer et transformer la société, mais on peut se désoler du fait que le leadership qui supposait le représenter, aujourd'hui en France, est très faible.
Karim, merci d'être intervenu sur l'antenne.
Merci, au revoir.
Merci, et ne lâchez rien. Hein, je crois que c'est très important. Avant de marquer une courte pause pub, je vais accueillir. Bonsoir Fatima de Paris.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités.
Bonsoir. Vous savez, bonsoir. Fatima, restez avec moi parce que je suis contraint de lancer la pub. Elle ne dure pas longtemps.
Il n'y a pas de souci.
Et je vous récupère tout de suite après.
Jusqu'à demain matin, j'attends.
Oh, ça fait plaisir.
Les alors, Beurre FM est aussi victime du capitalisme.
Ouais, vous avez vu ça, hein, exactement. Fatima.
Dépendant du capitalisme.
Vous êtes un amour, Fatima. Restez avec nous. À tout de suite, 01 53 48 3000, on vous attend. On marque une pause pub et on se retrouve dans une poignée de minutes. À tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 19h, 20h. Les informés avec Adil Farkan.
22, si vous venez de nous retrouver, sachez-le, c'est les informés, avec notamment Emmanuel Duplier, le président de l'IPSE, mais également aussi avec Abdeslam Itache, le vice-président du Modem du département 95, mais aussi, au 01 53 48 3000, direction où je reprends Fatima. Bonsoir Fatima.
Bonsoir Adil, bonsoir à vos invités. Moi, je voudrais dire merci à l'auditeur précédent.
Oui, Karim.
C'est exactement ce que ressentent tous les socialistes. Ah. C'est-à-dire les gens qui votaient socialistes, qui croyaient au socialisme.
Il est touchant dans son témoignage à Karim. Hein.
Il est véridique.
Ouais, il est véridique, ouais. Il est déçu, quand même.
On devrait le mettre en première page dans Libération.
Ouais, c'est vrai.
Parce que tout le monde se croit socialiste.
Je l'appellerais l'orphelin de la gauche.
Exactement. Eh ben, ouais. Les socialistes sont orphelins.
L'orphelin, c'est plus classe. Ouais.
Oui. Et on ne sait plus pour qui voter maintenant.
Oui.
On a essayé le communisme, le socialisme. Moi, je l'ai
vu. Qu'est-ce que vous pensez là de cette primaire populaire, Fatima?
Eh ben, c'est une rigolade.
Une rigolade.
C'est une rigolade. Ah oui,
vous dites comme nos débatteurs, finalement.
C'est une rigolade. Pourquoi Faure n'a pas organisé une primaire? Pourquoi il a
ah bah ça, c'est la question que
désigné Hidalgo?
Oui. Hein? C'est vrai, vous avez raison.
Quelle mouche l'a piqué pour désigner Hidalgo alors qu'elle était sur Paris, mais vraiment, elle n'avait aucun soutien sur Paris. Je me demande d'ailleurs comment elle a été élue maire de Paris. Mmh. C'est suite à l'abstention, 60% d'abstention. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des votes, ça?
C'est vrai.
Donc, moi, je dis. D'autant qu'elle n'est pas majoritaire. Hein.
Emmanuel Dupuis, qu'est-ce que vous dites? Attendez, voilà. Fatima, il y a Emmanuel Dupuis qui veut changer
le
avec vous.
Système de vote, oui, lui est favorable, mais qu'en nombre de voix, elle n'était pas majorité. Absolue. Ouais.
Exactement.
Alors, moi, vous savez quoi? Merci, Fatima, en tout cas, de votre intervention.
Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci.
Je vous embrasse. À bientôt. 01 53 48 3000. Vous nous appelez. Je vous attends partout en France. 01 53 48 3000. Venez changer avec nous, justement, sur cette fameuse gauche. Et finalement, je vous pose la question avant de passer au second sujet. Est-ce que c'est tout simplement, cette primaire, c'est pas pour favoriser le rassemblement. Et oui, vous le savez,
la division plutôt.
Non, le rassemblement. Arrêtez de voir le mal partout, messieurs.
Je voulais juste apporter une précision concernant Anne Hidalgo. Lorsqu'elle était candidate à la mairie de Paris, elle a dit qu'elle se consacrerait pleinement à ce mandat et qu'elle ne briguerait rien d'autre. Vous voyez déjà que ce sont les Parisiens qui sont cocus pour le coup, parce que finalement, elle se présente à l'élection présidentielle. Donc, vous voyez. Il y a déjà une trahison. Ensuite, vous parlez de rassemblement, mais où est-ce que vous avez
favoriser le rassemblement?
Vous avez,
elle est en panne, la machine, favoriser le rassemblement.
Avec sept candidats, est-ce que vous connaissez Anna Lagaporterie? Est-ce que vous connaissez Pierre Laroutroux? Est-ce que vous connaissez
Charlotte? Moi, je vois qui c'est, mais les auditeurs.
Laroutroux.
Non. Laroutroux.
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 Laroutroux. Laroutroux.
Moi, je vois très bien qui c'est.
Non, mais ce que.
On les a même reçus d'ailleurs ici.
Mais Adil Farkan.
Adil Farkan est candidat? Je ne savais pas.
Oui, je suis candidat.
Mais ça ferait un très bon candidat. Mais ce que je veux dire, c'est que...
Je ferais du macronisme.
La gauche... Ah
oui,
la gauche
tout communiquant à tout va.
En fait, la gauche fait tout pour perdre.
Enfin, je parle de la communication, je dirais. Je communiquerai un peu à sa façon.
Du vide, quoi.
Pas du vide, non, mais bon.
Ah, ça y est.
Le choix à l'américaine.
Ouais.
Ça veut dire quoi, ça, ouais?
Non, non, mais j'écoutais religieusement ce que disait Abdeslam.
Non, non, mais
je rigolais intérieurement, en tout cas.
Non, mais moi, ça me fait sauter sur ma chaise, la politique du vide. Emmanuel, je sais que vous avez choisi, le centre a choisi...
Je crois qu'on a l'appel surprise, s'appelle. Je crois.
La candidate LR,
Valérie
Pécresse. Oui. Vous n'avez pas été convié à la primaire, parce que pour participer à la primaire, il fallait impérativement prendre une adhésion chez LR.
Oui, donc, enfin, vous en même temps, il n'y avait pas de primaire chez vous non
que
plus.
Que vous n'avez pas choisi. Mais non,
il
n'y
a pas de primaire.
Il est le candidat naturel. Quoi, il est le président. Il est normal qu'il soit reconduit.
Ah bon, il est candidat?
Oui.
Ah ben, première nouvelle.
Il le sera.
Il est annoncé.
En tout cas, il se
n'a pas annoncé officiellement.
Ah ben
il
voilà.
Se déclarera officiellement en tant que.
C'est quoi ça?
Mais ce qui est quand même fâcheux.
C'est un appel, messieurs. Ah. On décroche.
Juste, on décroche.
Non, on décroche. Allô? Allô, allô?
Allô, Valou?
Non, non, c'est pas Valérie, c'est François Hollande. Mon cher président, comment ça va? Oui.
On l'entend pas, donc c'est lui.
Oui. Il est candidat, donc il va sauver la gauche, voilà. Et arrêtez de critiquer la gauche.
Revenons aux choses sérieuses.
On est aux choses sérieuses. Arrêtez de critiquer la gauche. Et il m'a dit,
Je précise une chose. Théoriquement, une primaire, enfin en tout cas si la grammaire a encore sa légitimité, c'est supposé départager en amont des candidats qui ensuite vont se présenter à l'élection présidentielle. C'est difficile de faire une primaire alors que ils sont déjà en campagne présidentielle. On a l'impression qu'en gros, ils ont fait les choses à l'envers.
Oui, la partie a déjà commencé.
Et que, comme ils se sentent pas légitimes, ils essayent de trouver tout pour légitimer quelque chose qui, vraisemblablement,
moi, je trouve que vous êtes
dans
difficile.
La politique bon. Sondagière, ne leur est pas favorable. Je rappelle qu'Anne Hidalgo tangente à 3% et que Christiane Taubira, rentrée en lice quasiment la dernière, bah oui, c'est la dernière candidate, a déjà dépassé Anne Hidalgo. Donc l'idée, c'est juste pour essayer de limiter la casse, pour montrer que ce Parti Socialiste, avec sa riche et dense histoire depuis 1965, début justement de cette capacité de rassemblement, est encore dans cette historicité. D'une phrase, pour terminer, quel que soit le résultat, est-ce que vous pensez légitimement qu'ils vont en tenir compte après la présidentielle? Bien sûr.
Absolument
que non.
Pas.
Eh ben, on saura ça lundi. Ou dimanche soir.
C'est tout. On saura ça après l'élection présidentielle, surtout.
Écoutez, on va s'intéresser justement, vous me permettez une belle transition, le second sujet, avec ce sondage. Est-ce qu'on ne veut pas marteler en permanence, justement, pour mettre dans l'esprit des gens, des électeurs, dans ces études d'opinion, qui sont réalisées en permanence, que le second tour, le match va se jouer entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, Emmanuel Dupuis. Essayons de décrypter la chose, parce que il y a un sondage exclusif qui dit clairement que Marine Le Pen reprend du terrain et qu'elle se retrouverait, donc elle affronterait même d'ailleurs Emmanuel Macron, d'accord, j'allais dire Dupuis,
non, Emmanuel non, Macron, non,
Macron
il y a
chance, au second tour et non Valérie Pécresse. C'est ça là. Qu'est-ce qu'on veut nous faire dire?
Premièrement, les sondages ne sont pas exclusifs puisqu'il y en a à peu près un par semaine. Donc
c'est ce que je vous ai dit.
Rien d'exclusif. Deuxièmement, c'est effectivement Dancy comme Abdeslam est en train de faire des gestes. Troisièmement, et j'aurai un dernier point ensuite, c'est pas parce que vous gagnez un point que le match est fait. Premièrement, le taux marginal d'erreur, comme le disent les experts sondagiers, est de 2 points. Donc ça n'a absolument rien de nouveau. La chose qui, par contre, est confirmée, c'est que tout est fait et tout s'installe pour qu'il y ait un duo avec un candidat qui refuse le premier tour. Je crois d'ailleurs que
un
le président...
Duel, plutôt qu'un duo.
Oui, enfin un duel, mais pour l'instant, c'est plutôt un duo. Pourquoi? Parce que le duo, il se fait entre Valérie Pécresse et
Marine Le Pen,
sans Emmanuel Macron. Emmanuel Macron se drape dans sa superbe en disant le premier tour, ça ne me concerne pas.
Ça me concerne pas.
Et donc, du coup, c'est
vous
très.
Vous l'avez entendu le dire?
je l'ai entendu le penser très fort avec un certain nombre de gens qui lui susurrent à l'oreille qu'il est au-dessus de ça et qu'il faut tout de suite s'ancrer dans le deuxième tour. Sauf que je termine. Oh, je n'ai absolument pas la prétention ni l'ambition d'écouter ce que pourrait dire Emmanuel Macron.
Attendez, parce qu'on va retrouver le quoi de neuf. Finissez votre phrase.
C'est très important ce que je veux dire, parce que je pense que c'est vraiment, et je pèse mes mots, un déni de démocratie de partir du principe que le premier tour est pour tout le monde sauf pour soi.
Attendez, je reviendrai parce que il y a quand même un enseignement à tirer justement de ce sondage IFOP. Vous comprendrez, je reviendrai là-dessus. 19h30, le quoi de neuf.
Les informés, le quoi de neuf.
Le quoi de neuf, c'est avec Michel Taube, le patron d'Opinion Internationale, le média en ligne. Bonsoir, et vous êtes aussi éditorialiste. Bonsoir Michel Taube.
Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs de Beurre FM.
Merci d'être avec nous. Vous avez décidé de nous parler justement du lancement de site de campagne de Emmanuel Macron. Est-ce qu'il ne serait pas un peu officiel là? On vous écoute, mon cher Michel, pour votre signature.
Alors, si je vous dis avec vous, qu'est-ce que vous me répondez, Adil?
Plusieurs choses. Sans nous.
C'est le nom du site de campagne.
Bien sûr, c'est le site de campagne.
De lancer La République en marche de façon tonitruante sur Internet. Et c'est effectivement le premier site de campagne, alors quasi officiel, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas encore en campagne. Mais voilà, c'est un geste très important qui a été lancé. Alors, tous ceux des auditeurs de Beurre FM qui s'intéressent à la campagne et qui peut-être se sentent macronistes, peuvent aller voir avecvous.fr. Alors moi, mon point de vue, c'est que c'est un site assez démagogique parce que il y a quelques portraits de Français de ces premiers de cordée dont le chef de l'État avait souvent parlé pendant la crise Covid. Emmanuel Macron n'est pas du tout cité sur le site, mais
on aperçoit une vidéo aussi.
Oui, mais il n'est pas là, il n'est pas sur le site.
Non.
Enfin bon, c'est le premier site, on va dire, qui annonce la prochaine candidature d'Emmanuel Macron. Chacun se fera son point de vue sur ce qu'il y a sur. C'est un site très publicitaire, en fait, je trouve. On voit bien que ça a été chiadé par une agence de communication dernier cri. Je pense que ça manque un peu d'humanité et de concret, on va dire, et de saveur. Mais enfin bon, ça c'est notre question. Non, c'était pour dire, je voulais insister là-dessus parce que hier la campagne officielle des parrainages a commencé. Donc les maires, députés, sénateurs, élus locaux peuvent commencer à remettre officiellement leur parrainage.
Leur parrainage. Ouais.
Donc là, ça c'est pour dire vraiment, on entre là vraiment, franchement, dans la campagne électorale. Je crois que c'est un petit peu le dernier week-end, un peu de où tout le monde se rôde. Il y a la primaire populaire également qui va avoir lieu ce week-end, qui devrait normalement investir Christiane Taubira avec quand même beaucoup d'inscrits, hein, plus de 450 000 inscrits. Le site de La République En Marche, qui s'appelle donc Avec Vous et qui, encore une fois, est une étape de plus vers la candidature d'Emmanuel Macron. Donc voilà, on se rapproche de la candidature dans tous les affiches de la politique et d'avenir de la France. Doivent trépigner ce week-end et voilà. Donc je voulais souligner ça pour ma carte blanche, cher Adil et chers auditeurs de Beurre FM.
Et vous avez eu raison d'en parler, effectivement, parce qu'on est dans plein sujet d'actualité, puisque effectivement, on voit bien que c'est traité et relayé par beaucoup de médias. Merci mon cher Michel Taube, on se retrouve la semaine prochaine, vendredi, sans faute.
Absolument, quand vous voulez. Merci Adil.
Merci.
Et bonsoir à vous.
Et prenez soin de vous. 19h33, nous allons marquer la dernière pause pub. Et on se retrouve justement avec le point de vue d'Abdeslam Itach, qu'on n'a pas entendu encore, sur cet enseignement qu'on doit tirer concernant ce sondage, avec notamment Marine Le Pen qui affronterait Emmanuel Macron. Alors, que doit-on comprendre? Et est-ce qu'on n'est pas en train de préparer les esprits? Elle est là la question. À tout de suite, ne bougez pas.
Les informés revient dans un instant. Beurre FM, 19h-20h, les informés avec Adil Farkan.
Avec Emmanuel Dupuis, avec Abdeslam Itach, on écoute Abdeslam Itach concernant, parce que c'est vrai qu'il y a un enseignement à tirer de ce sondage. Vous savez quoi? Eh bien, c'est tout simplement qu'il y a des voix qui représentent 24,5 des voix parmi les 18-30 ans, selon ce sondage, qui seraient évidemment proches pour Emmanuel Macron et à la fois aussi Marine Le Pen. Alors, Abdeslam Itach.
D'abord, moi je partage l'avis d'Emmanuel Dupuis hein, sur cette relativité due au sondage. Et vous savez, l'histoire a démontré à plusieurs reprises qu'il ne fallait surtout pas faire confiance aux sondages. Et si on n'écoutait que les sondages, Édouard Balladur aurait été président, ainsi que Lionel Jospin. Donc vous voyez, il faut savoir raison garder. Ensuite, Adil, vous disiez que justement les sondages étaient peut-être là pour préparer un petit peu les esprits. J'ai envie de dire oui. Si vous voulez, si on annonce un candidat, parce que tout candidat est légitime, vous voyez, et lorsqu'il y a des sondages qui indiquent, admettons, je prends un des candidats déclarés, Philippe Poutou, qui représenterait 1%, on le place là, mais ça n'est qu'un avis, un avis de personnes qui sont sondées. Souvenez-vous, il y a 5 ans de ça, lorsqu'il y a eu des débats télévisés, souvenez-vous qu'il y a des candidats que l'on a considérés être des petits candidats et à qui on n'a pas permis d'être sur le
plateau
pour débattre. C'est un refus de démocratie.
C'est de l'insolence.
C'est un principe non égalitaire que je récuse, même si ces petits candidats.
C'est pas démocratique du tout.
Donc, voyez, moi, il faut savoir raison garder.
D'ailleurs, vous parlez de Poutou avec
les sondages. Aujourd'hui, Marine Le Pen est en bonne position, demain elle ne le sera pas, et ainsi de suite. Mais ensuite, il faut aussi se poser la question de la stratégie de Marine Le Pen depuis qu'elle a pris la présidence du parti qu'elle a arraché à papa. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'elle a tout tenté pour rendre fréquentable son parti, dont elle a changé le nom, du Front National. Ils sont passés au Rassemblement National. Ce que je veux juste dire, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ça doit payer, et on le voit bien aujourd'hui, la droite qui se déchire dans tous les sens, avec des gens qui sont avec Agir, qui est parti avec Emmanuel Macron, d'autres qui ne sont pas trop fans de Valérie Pécresse, et certains qui sont partis chez Éric Zemmour. Donc, vous voyez, peut-être que sa stratégie de dédiabolisation du Rassemblement National va peut-être marcher. Donc, mais je garde quand même, permettez-moi d'être plutôt dubitatif sur le résultat de ce sondage, qui sera certainement démonté la semaine prochaine ou la semaine suivante.
L'enseignement qu'on doit tirer, c'est les 18-30 ans qui voteraient Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Qu'est-ce que cela, évidemment, vous inspire, Emmanuel Dupuis ?
C'est simple, c'est mécanique. Les jeunes aiment bien les premiers de cordée. D'ailleurs, le président l'a parfaitement compris. C'est pour ça que ceux qui arrivent en tête sont ceux qui sont les plus lisibles. Et encore une fois, qui ont un discours manichéen. La réussite d'un côté, le pouvoir, et puis ceux qui récusent ce pouvoir. Et puis tous les autres...
Et puis le RN, attention, le Rassemblement National séduit en force.
Parce qu'il récuse le pouvoir ou il récuse ce pouvoir. Donc c'est assez simple en termes de lecture. Deuxièmement, il y a eu une stratégie. Il y a eu une stratégie de rajeunissement des cadres dans les deux partis. Mmh. La République En Marche, même si ce n'est pas totalement probant, et le Rassemblement National, je ne pose aucun jugement d'adhésion.
Juste un constat. Jordan Bardella.
En termes de constat.
Quand on pousse un peu plus, RN séduit les jeunes peu diplômés. Et à l'inverse, Macron séduit les jeunes diplômés.
Ce qu'on appelle les CSP plus. Et les Français de l'étranger, les expatriés. Mais ça, c'est finalement ce qui lui avait permis aussi de gagner l'élection et de faire la différence entre les électeurs de droite, plus conservateurs, plus ruraux qu'urbains. Mais le sondage dit autre chose. Le sondage dit que les urbains votent en priorité pour Marine Le Pen et pour le président Macron, et que les ruraux seraient plutôt dans une logique de retour sur des fondamentaux plus historiques.
Avec les clivages gauche-droite.
Les villes avec le clivage gauche-droite, avec les villes qui ont été conquises par les Verts, qui voteraient majoritairement plus Verts que dans les centres, dans les autres centres urbains, majoritairement Paris.
Oui.
Et bien évidemment, le vote rural, plutôt conservateur sur la façade atlantique, et plutôt progressiste, ou plutôt réformiste, avec cette nouvelle forme de réformisme où les Verts et le Front des Insoumis a remplacé ce qui était autrefois la force du Parti Socialiste, avec quelques ancrages dans le Nord. Non, le Parti Communiste résiste bien dans le Nord. Et, ou en tout cas dans les zones
locales, oui.
Dans les zones les plus touchées.
Dans le Nord, oui, il résiste.
Dans les zones les plus touchées par la déshérence professionnelle, la montée du chômage, en tout cas le niveau plus important des niveaux de non-emploi. Et puis bien évidemment, avec une autre particularité, c'est que ce sondage installe auprès des médias un narratif assez simple, qu'il y a deux principaux candidats et que tous les autres suivent. Et donc, d'une certaine façon, on a un peu cette dictature sondagière qui s'associe avec une capacité des médias d'amplifier les sondages comme une forme de vote instantané figé. Mais non, il reste encore du temps. Et le principe même d'une campagne électorale, c'est de faire bouger les électorats dans un sens ou dans un autre. C'est pour ça que, pour que le jeu démocratique soit plein et entier, aucun candidat ne doit se défausser doit participer à tous les enjeux de cette campagne. Donc se déclarer candidat, donc participer au débat. et exclure personne. Les grands comme les petits candidats.
Abdeslam Itaj, sur les 18-30 ans, vous dites quoi ?
Non, mais il y a un vrai mouvement, et Emmanuel Dupuy l'a bien résumé. D'abord, Emmanuel Macron a été élu quand même à l'âge de 39 ans. D'abord, c'est une première, hormis Giscard d'Estaing. Mais les autres présents ont toujours été élus avec un âge plutôt avancé. Ça séduit quand même les jeunes. Il a quand même un profil plutôt jeune. Et forcément, il séduit cette catégorie de potentiels électeurs. Le Rassemblement National, comme Emmanuel Dupuy l'a précisé, en effet, c'est un parti d'opposition, mais qui s'oppose à tout. Hein. Pour le coup, depuis 40 ans, ils sont toujours opposés à tout. Et il y a en effet un rajeunissement. J'évoquais Jordan Bardella. Vous vous rendez compte que
on donne
la chance à un jeune du 93 dans un parti pareil.
C'est vrai.
Alors qu'on ne le propose pas dans les autres partis. C'est un vrai malheur, hein. c'est une vraie tristesse pour tous les jeunes qui veulent aujourd'hui s'engager en politique et à qui on ne laisse pas de place. Vous voyez, sur les législatives, moi je rêverais de voir des jeunes de 25 ans se présenter et renouveler un petit peu tout ce paysage.
Mais Bardella, ça fait un moment qu'il est là, attention. Hein,
quoi donc, enfin, il a quand même fait élire à 24 ans.
Ouais, il s'est fait élire à 24 ans et puis lui, il a commencé tôt. Hein.
Oui,
très très tôt. Hein.
Mais je crois
que je me suis allumé, moi je l'avais reçu déjà à l'époque.
Ce renouvellement là, hein. et il est plus que nécessaire. Mais dernièrement, moi j'entendais ici même, enfin à la radio, certains vieux briscards du Parti socialiste ici même qui sont dans la politique depuis 40 ans, annoncer qu'ils veulent un renouvellement. Bah, déjà, si tu veux du renouvellement, tu quittes ton mandat et tu laisses la place aux jeunes.
Eh ben, on est à 75 jours donc du premier tour et tout cela à vivre dans Les Informés, ici même et avec des émissions spéciales sur Beurre FM, ici à ne pas manquer. Dernier sujet qui a retenu notre attention. Alors, on va parler de justice, messieurs, parce que c'est vrai que la justice, selon certains, 9 Français sur 10 qui jugent que la justice n'est pas assez sévère face aux délinquants, mais surtout que la justice, elle est, je pose la question, ne serait-elle pas, si vous voulez, un peu laxiste, parce que effectivement, elle n'est pas en faveur d'un durcissement envers les actes de délinquance, notent certains, et d'ailleurs, ça exaspère certains, notamment Éric Zemmour. Qu'est-ce que vous répondez, vous, Emmanuel Dupuy, et qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cela, et est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que notre justice est laxiste ?
Alors, on peut déjà prendre en compte le fait qu'une majorité des Français sont non seulement pour une justice plus sévère, mais sont pour un certain nombre de valeurs un petit peu plus réaffirmées.
Oui.
On peut dire des valeurs conservatrices ou réactionnaires.
91%, c'est énorme. Hein.
C'est tout à fait considérable, mais en même temps, si l'on compare à d'autres pays européens, on est dans la norme. Mmh. Et on est dans une ligne de non pas de fracture, mais une ligne de crête ou une vague qui s'est arrimée sur l'ensemble des pays, donc au moins d'Europe continentale. Et je rajoute en Russie accessoirement aussi. En fait, c'est l'autorité qui est recherchée, c'est la personnification du pouvoir, évidemment pas excessive, et d'une certaine manière, quelqu'un qui incarne une autorité morale, politique, mais pas forcément liée à une histoire, mais qui est liée à une histoire personnelle. C'est pour ça qu'on gosse beaucoup sur la candidature de Christiane Taubira. Mais Christiane Taubira, pour beaucoup de jeunes, parce qu'elle a été garde des Sceaux, peut aussi impacter et peut aussi représenter une forme d'adhésion. Je ne la défends pas et vous aurez bien compris, elle n'est pas de mon parti.
On l'aura bien compris.
Même si nous avons été effectivement dans le même parti il y a de cela quelques décennies. Pour revenir à l'essentiel, le rapport des jeunes à la justice n'est pas le même que le rapport des personnes un peu plus âgées.
Bon, en tout cas, ils plaident pour plus de fermeté.
Ils plaident pour plus de dureté même.
De dureté même, ouais, exactement.
Plus que la fermeté, c'est la dureté. Ouais. Excessive peut-être, hein. En tout cas, une forme de d'autorité qu'on ne retrouve pas peut-être plus dans la cellule familiale ou qui a été un peu cassée par les us et coutumes, ou en tout cas le mode de vie dans nos sociétés, les familles monoparentales qui se sont installées, l'absence de figure paternelle, l'absence de figure tutélaire, pas forcément paternelle, tutélaire, est une chose qui gagne toutes nos sociétés. Une forme d'individualisme aussi. On perd le sens du collectif. On perd aussi le sens des valeurs et des repères. Justement, par rapport à la déshérence que peut constituer au sein de l'école ou de l'éducation un certain nombre de choix d'enseignement de matière, peut-être moins fondamentale pour la construction de l'individu. Donc tout ça participe à une forme de retour en arrière qui pourrait donner l'impression que c'est une forme assez réactionnaire du retour sur des années qui n'existent plus. Et je crois que c'est un peu la désillusion de Zemmour. Revenir à une France des 30 Glorieuses qui, évidemment, n'existe plus par rapport au contexte géopolitique et par rapport à la réalité, comment dire, de notre capacité d'absorption économique ou notre intégration dans le modèle économique européen. Mais, encore une fois, il y a encore ce travers ou cette volonté. Vous dites que Marine Le Pen et Emmanuel Macron séduisent beaucoup les jeunes. Mais quand vous regardez la composition des meetings d'Éric Zemmour, vous êtes frappé de constater que le public est jeune et qu'il a autour de lui quasiment des gens qui sont plus jeunes que quand Emmanuel Macron s'est présenté à l'élection présidentielle.
Exactement. Abdeslam Itache.
Alors, vous disiez que ça exaspérait Éric Zemmour. Franchement, ce qui exaspère Éric Zemmour, je m'en fiche, mais comme de l'an 40. Je vais vous dire une chose, ce n'est pas sa façon de penser qui fera avancer la France.
Oui,
mais ce sondage que vous avez, et on en a dit quelques mots de ce qu'on pensait des sondages, il dit aussi que les Français, à 50%, souhaitent un retour de la peine de mort.
Ben non,
vous voyez, il y a un retour justement d'un ordre moral du passé. La peine de mort, évidemment, fort heureusement que ça a été aboli. Et qu'il faut
pardonnez-moi, ne mélangeons pas tout. Moi, je pense que ce que veut dire ce sondage, c'est en quelque sorte, est-ce qu'il n'est pas, c'est pas le moment de révolutionner notre justice? Est-ce que c'est pas le moment qu'on a à faire un système qui est à bout de souffle? Voilà, c'est des choses auxquelles je pense, moi, aujourd'hui.
Non, Adil Farkan.
Je pense que, à mon avis, c'est plutôt ça. C'est qu'on est au bout, face à un système qui est à bout de souffle.
Ce que les gens.
Tout est long, en fait.
À la justice,
tous les dossiers sont longs.
Si une personne est condamnée, qu'elle ne fasse pas une peine de prison. Mais je vais vous dire une chose, au risque de
Une peine de prison soit effective, c'est tout.
Au risque de vous choquer, et les auditeurs peuvent appeler, il n'y a aucun souci. Moi, ça me gêne qu'un jeune qui s'est retrouvé sur une petite peine, sur de la vente de cannabis ou autre, se retrouve en prison avec des caïds qui sont dans la cocaïne, dans l'héroïne, dans le crack, ou dans le business international illicite. Vous voyez? Et c'est une triste école pour ces jeunes qui sont tombés pour une infraction. Non, on va pas en prison pour une infraction, mais
des délits.
Mais oui, pour un délit, qui sont de jeunes délinquants. Mais alors que la société a tant à faire. Ensuite, je veux parler aussi de la surpopulation carcérale. Lorsque l'on a des prisons où il y a dans une même pièce 4 ou 5 personnes, ce qui est juste inhumain. Et d'ailleurs, la France a été.
Là, c'est un autre sujet. Hein.
Oui, non, mais on parle des prisons.
On passe d'un sujet à l'autre, là. Mais bon. Là, c'est pas le sujet des prisons.
Non, mais si, c'est le sujet.
Non. Mais si, on parle de la justice.
Mais la justice, justement.
Trop laxiste, la justice pas assez sévère, non, la justice qui manque de discrétion, la justice, est-ce qu'on doit pas la révolutionner? Est-ce qu'elle arrive pas à bout de souffle? C'est ça les questions que les gens se posent aujourd'hui.
C'est justement dans le but de l'envoyer en prison. Et c'est plutôt une bonne chose. Ce que je veux dire, c'est que. Et je vous l'ai dit, lorsqu'il s'agit d'un délit, d'un petit délit, se retrouver avec des caïds, moi, ça me pose problème, vraiment. Donc, vous voyez, c'est... Et ensuite, Emmanuel Dupuis, vous parliez justement de ce manque de paternalisme. Mais aujourd'hui, la société, elle est ainsi composée, avec des familles monoparentales.
Et
quand une maman a 3 enfants...
C'était pas une critique, c'était une constatation.
Oui, c'est une constatation, et que je partage. Mmh. Mais quand vous avez une maman qui élève 3 enfants... Et le plus âgé ne rentre pas à la maison, ne répond pas au téléphone, et qu'elle est coincée à la maison avec les 2 petits, et que vous voulez quoi, qu'elle fasse le tour de la ville, qu'elle le cherche partout. Bien sûr qu'il y a un vrai problème aujourd'hui, une vraie difficulté pour ces mamans, toutes ces mamans pour qui j'ai un profond respect et j'ai conscience de leurs difficultés. Comment voulez-vous justement amener encore de la difficulté à la difficulté? Vous vous rendez compte qu'on a certains leaders politiques qui parlaient de supprimer les allocations familiales pour les familles dont l'enfant serait un délinquant. Vous allez pénaliser toute une famille.
Ça, c'est sûr.
Et vous voyez, tout se rejoint finalement.
Donc,
la surpopulation carcérale, elle fait partie aussi de tout cet algorithme où justement les gens ont le sentiment que les personnes ne font pas leur peine.
Emmanuel Dupuis.
Alors, moi, j'ai sous les yeux un autre sondage qui pourrait aussi qui mériterait en lui-même un débat. Il est sorti lundi dernier sous les yeux du CEVIPOF, qui présente effectivement un document particulièrement intéressant puisqu'il a fêté ses 80 ans. 75% des Français estiment que le pays a perdu sa boussole morale. Donc ça participe de la même logique, une sorte de remise en cause On ne sait pas tout à fait bien définir qui en est le responsable. Est-ce que c'est une justice laxiste ? Est-ce que c'est des forces de sécurité qui parfois sont non contrôlées, non maîtrisables et qui parfois en font qu'à leur tête, littéralement, avec moins d'autorité, moins de contrôle, moins de surveillance ? On l'a vu lors des excès des manifestations, des gilets jaunes ou d'autres. Est-ce que c'est un président qui s'occupe davantage international et ne s'est pas vraiment focalisé sur les déshérences que l'on peut trouver, les désespérances humaines qu'on peut trouver dans notre pays? Est-ce que ce sont des élus locaux dépassés par le fait qu'ils n'ont plus suffisamment de moyens? Comme vous savez, l'État a réduit la dotation globale, donc
la dotation
en gros,
globale de fonctionnement.
En gros,
donner les chiffres.
Hein. Leur pratiquement 500 millions. 480.
500 millions sur 37 000 communes.
36 000, oui.
Ouais.
Bon, on dit. Et la dotation globale de fonctionnement, c'est pas que les communes. Hein.
Alors, c'est les
collectivités,
les départements, les régions,
les collectivités générales.
Ça, on peut en parler. Il y a aucun problème. Vous savez qu'il y a aussi la dotation de péréquation qui justement est là pour renflouer ce déficit, ces pertes-là. Mais on va pas aller dans un calcul.
J'ai pas l'intelligence de
moi la, non plus,
ni sélective. Je dis juste et permettez-moi quand même d'étayer mon argument, c'est qu'on peut pas dire tout et son contraire. Et qu'à un moment ou à un autre, on ne peut pas valoriser une phraséologie de l'autorité, du retour à la sécurité, et de l'autre, constater qu'on rabote par-dessous, sans que ça se voit, des choses qui sont évidentes et qui sont même récurrentes pour le fonctionnement. D'une phrase, quand Richard Ferrand explique ou justifie le fait.
L'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale.
Enfin, on n'a pas besoin de définir. On sait précisément qui c'est. Quand le président de l'Assemblée nationale en est à définir, ou à expliquer, ou à s'excuser du fait que le bilan de la sécurité est certes mauvais, et il n'en disconvient pas, mais en disant que tous les autres ont été mauvais, est-ce ça la responsabilité politique?
C'est par Nicolas Sarkozy.
Mais c'est
qui
pas
a
par commencer.
La police de proximité.
C'est dit Emmanuel Dupuis, mais non.
C'est pas par commencer, pas vous n'êtes pas au même niveau de réflexion que
non,
moi.
Non, c'est pas, exactement.
C'est pas par commencer.
Non, c'est pas ça,
vous comprenez pas ce que je veux dire. Si vous comprenez pas ce que je veux dire.
Il a pas tort.
Je ne compare personne.
C'est pas pour le défendre.
Je dis juste philosophiquement, ça pose un problème.
Vous savez que la sécurité, c'est le dada de la droite. Et quand on a Nicolas Sarkozy,
tout ça, c'est des, tout ça,
prend la parole et qui dit
ça,
que la police n'a pas vocation à jouer au football avec
les
jeunes,
très bien,
et qu'il retire la police de proximité.
Et alors,
vous voyez, on n'est pas à un paradoxe près.
Non, mais là aussi, vous faites le jeu du simplisme.
J'essaie de vulgariser un petit peu la politique.
Mais non, mais vous
pour les profanes, vous avez raison.
Mais c'est pas. Alors justement, c'est le pire. C'est absolument scandaleux ce que vous voulez de faire.
C'est ce que Nicolas Sarkozy a fait.
Mais non, mais pourquoi Nicolas Sarkozy seulement? Pourquoi est-ce que vous critiquez pas les autres?
Seulement. Oh,
donnez-moi.
On peut prendre François Hollande aussi.
Ah bah alors allez-y, faites-le.
Pas de problème.
Et Emmanuel Macron aussi. Vous voyez, vous en réduisez parce que vous êtes focalisé en disant des marqueurs. Vous voyez, la simplification politique, elle est là. Et l'attrition de la politique vient de là. Vous résumez Nicolas Sarkozy à quelque chose qui vous a vu déplaît.
Non,
c'est absolument
indigent. On pourrait faire une émission de 5 heures. Je vous parlerai pendant 5 heures.
Le débat continue. Attendez, je serai obligé de rendre l'antenne, messieurs.
Ou de ce qu'il n'a pas fait.
Ça y est, je dois rendre l'antenne, merci. C'est passionnant, c'est vraiment passionnant.
Oui, surtout que Nicolas Sarkozy, c'était quand même pas le principal responsable. Je rappelle qu'il y a eu un président.
Je rends l'antenne,
juste avant.
Merci à Abdeslam Itach, merci à Emmanuel Dupuis, merci à la réalisation. À Yannis, on retrouve Bilal Nedman et Time Sport de 20h à 21h. Prenez soin de vous, à demain avec
autant de plaisir. Critiquez votre président qui était ministre.
On ne lâche rien, le débat continue. Ciao, à demain.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli.